Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande en une vingtaine de minutes trois trucs vraiment cool que vous pouvez explorer, essayer, écouter, regarder, lire, quoi d'autre encore, et même aujourd'hui vous instruire. Bon, c'est un petit peu un truc d'intellectuel dont je vais vous parler moi, mais avant de passer dans l'intellectualisme, qui est un véritable mot du dictionnaire, je vais compenser par avance en vous présentant des gens qui sont chers à mon cœur, à savoir celui qui se marre comme une loutre, à savoir Will.
Comment tu... Bonjour, bonjour, salut. Mais c'est fait rire parce que t'es obligé de te justifier derrière le mot. Je veux dire, ça existe, hein. C'est un mot qui existe, intellectualisme.
Non, mais ce qui est drôle, c'est que ça n'existe pas, évidemment, tu vois.
Ah, voilà, mais donc, oui. C'était très...
Ou peut-être que si, mais on ne sait pas.
Si,
c'est
ça
le mystère.
Je ne pas que ça existe. Alors d'accord. Là, si ça n'existe pas, j'ai l'air vraiment d'un con, mais ça m'a l'air potentiellement... J'aurais pas l'air d'un intellectuel, ça c'est sûr. Mais bon,
demandons à l'autre compère de cette émission, à savoir Jérôme Kainborg. Est-ce que ça existe ou pas?
De quoi?
Intellectualisme.
Attends, attendez, je réfléchis en tapant.
Oui, ça existe. Wikipédia dit que ça existe.
Ouais, ouais.
Donc voilà.
Oui, ça doit être un courant de pensée.
C'est quand même, c'est déjà une spécialité française.
Le mot intellectualisme revêt deux sens principaux. Le premier est technique, métaphysique. Il désigne une doctrine qui affirme le primat de l'intelligence, de l'intellect, sur l'affectivité et sur la volonté. C'est quand même, ça nous décrit parfaitement bien. Il s'oppose à l'émotivisme et au volontarisme. Le second est courant. Il désigne la tendance à sacrifier la vie et l'instinct aux satisfactions de l'intelligence. Là aussi, ça nous décrit parfaitement. Je pense même que ça va pouvoir être un titre d'émission. Hop,
c'est pas mal.
Deux minutes et c'est bon. C'était quoi? Les satisfactions de l'intelligence, voilà. Titre trouvé. Bon, vous allez bien depuis deux semaines?
Très bien. Moi, j'avais une question par rapport à ton intro, parce que tu dis tout ce qu'on peut lire. Est-ce qu'on a le droit de parler de quelque chose à manger? C'est de la culture aussi.
C'est... Non, pourquoi pas? Ça
non,
pourrait
je l'ai
être.
Pas, je l'ai pas fait, je le ferai pas, mais, alors il faudrait que ça soit quelque chose qui soit disponible de tout le monde. Non, on va pas parler
ça,
de resto, mais,
si tu parles par exemple d'un type.
Une nouveauté, un nouveau pépito, à la pistache.
Par exemple. Ou... Oui, pourquoi pas.
Bon, essayez. Ouais. Bah, tu me réinviteras dans un an, hein.
D'accord, c'est prévu, en 2015. Ou par exemple d'un certain type de cuisine que certaines personnes pourraient ne pas connaître, ou ce genre de choses, quoi.
Ouais.
Par exemple. Bon. Commençons donc nos recommandations de trucs plutôt cool et sympas avec une recommandation qui est un poil compliquée, mais qui m'est vraiment chère. Et je dis un poil compliqué parce que c'est compliqué par le sujet, mais c'est aussi compliqué par la forme, parce que c'est en anglais et ça n'existe pas en français. Donc, je sais que certains...
Moi, je dis débat, là. Est-ce que t'as le droit?
Est-ce que j'ai le droit? Bah écoute, si je ne l'ai pas, je me l'arroge pour cet épisode. Et quand même, on a fait un an...
La dictature positronique. Ouais.
Non, mais tu sais très bien que moi, dans mes émissions, Jérôme, c'est la dictature complète.
Mais
c'est moi qui décide.
Je sais, mais aussi longtemps...
tu ne le sais que trop bien.
Aussi longtemps que je continuerai à en co-présenter avec toi, je serai la rébellion, je serai la résistance, Patrick.
Oui, toi qui vas parler de pépito, de pépito à la menthe.
Et voilà, et ben justement... Alors, te repousse dans tes retranchements de dictateur.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, ce dont je veux vous parler, c'est un truc qui s'appelle Justice with Michael Sandel. Alors, c'est qui?
Je fais les traductions. Alors, c'est la justice avec Michel La Sandale.
Voilà, je l'attendais celle-là, j'en étais sûr. Je t'ai tendu la perche et même la sandale. Donc, Michel La Sandale, il nous parle en fait de... C'est un philosophe politique américain qui est aussi un prof à Harvard. Et il fait...
Ça rigole pas.
Ah oui, non, mais je vous ai dit, c'est un petit peu... Mais en fait, il a fait une série de cours qui est disponible sur Internet par iTunes U et ailleurs, qui est disponible et qui est en libre service, qui est une série de 12 cours qui font à peu près une heure chacun. Je crois que c'est une heure. Une heure ou 28 minutes, je sais plus. Mais je les ai vus il y a, je sais pas, peut-être 2 ou 3 ans. Et c'est absolument passionnant. Alors, il faut un petit peu maîtriser l'anglais, comme je le disais, parce que vous vous doutez qu'avec un sujet de philosophie politique, c'est pas hyper hyper simple. Et d'autant plus que là, ça a à voir avec la justice, mais enfin la loi et la justice au sens noble et profond du terme. C'est-à-dire qu'il va explorer des problèmes moraux qui font la base de la raison de notre justice, la raison pour laquelle et de nos lois, la raison pour laquelle elles sont pensées comme ça, pourquoi est-ce qu'on arrive à telle ou telle conclusion plutôt qu'une autre. Et il explore tout ça, ce qui est vraiment intéressant et la raison pour laquelle je le recommande, c'est que d'une part, c'est extrêmement bien produit. La plupart des cours à sur iTunes U, c'est souvent des choses qui sont pas hyper bien produites. Il va y avoir une petite caméra posée dans un coin, on n'entend pas super bien le son, et voilà. Là, c'est produit comme une série télé, quoi. Ils ont mis vraiment les moyens, parce que le mec est connu et très bon. Et c'est vraiment produit par une série comme une série télé, non seulement pour les moyens de production eux-mêmes, mais en plus pour la construction du cours. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de cours qui nous ferait rêver si on était étudiant, quoi. C'est des trucs hyper distrayants d'une part, intéressants et bien monté, c'est-à-dire qu'il va poser des questions à certains, amener les autres à répondre, c'est très interactif. Et à aucun moment, il ne va dire, il va lire son cours, par exemple. Ça n'arrive pas. Généralement, dans les bonnes universités américaines, tu as ta liste de bouquins à lire, bah, quand tu arrives en cours, tu les as lus, et on discute des sujets qui ont été évoqués dans ces livres. Il parle notamment, pour vous donner un petit peu une idée des sujets qu'il aborde et de comment il les aborde, pour vous montrer que c'est pas quelque chose de rébarbatif. L'un des problèmes moraux dont il parle, il donne un exemple d'un véritable cas de procès qui a eu lieu dans au je sais plus 17e ou 18e siècle, quelque chose comme ça, où il y avait un bateau qui avait été échoué et l'équipage qui était quasiment sûr de mourir. Et l'un des membres de l'équipage, un mousse ou un des membres de l'équipage, était malade et allait mourir. C'était certain. Enfin, c'était certain. Ils en étaient certains. Après, qui peut savoir ce qui va se passer. Et du coup, la question... Alors attention, accrochez-vous, hein, c'est pas forcément marrant. Mais la question, c'était... est-ce qu'ils ont moralement le droit de le tuer et de le manger? Attention, hein. Mm-hmm. Et de le manger pour survivre? Ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas moralement le droit de le tuer et du coup, ils meurent tous? Donc évidemment, c'est le genre de débat sans fin où chacun va avoir sa réponse et son explication, surtout qu'on parle de questions théoriques. Hein. Et chacun va avoir son argumentation. Et il part de ce type de discussion et de ce type de réflexion pour découler sur les choix qu'on fait dans notre société. Pourquoi est-ce qu'on décide de faire telle ou telle chose plutôt que telle ou telle autre? Pourquoi est-ce qu'on choisit tel ou tel courant de pensée? Et pourquoi les lois sont construites telles qu'elles sont? Et en fait, il va vraiment, à chacun de ses cours, essayer de remettre en question, parce que lui, il choisit pas. Il écoute les gens qui ont des choix, bon, qui finalement sont assez simples, hein. Évidemment, on va être pour ou contre, et les discussions vont être relativement classiques, et il écoute les gens qui sont pour ou contre, et il essaye toujours de, bah, comme je le fais souvent, d'être l'avocat du diable, et d'expliquer pourquoi, si on décide, ou si on a cette approche, il pourrait y en avoir une à l'opposé, qui pourrait être valide, même si elle pourrait paraître complètement inacceptable à la base. Et il réussit par des cheminements de pensée à nous montrer toutes les facettes de ses décisions et toutes les facettes de la loi et des raisons pour lesquelles les lois sont faites comme ça. Donc c'est vraiment une série absolument passionnante. C'est disponible gratuitement sur Internet comme le meilleur de ce genre de choses. Et je vous le recommande, même si, bon, comme je le disais, il faut parler anglais, donc c'est pas pour n'importe qui. Mais si vous maîtrisez un tout petit peu l'anglais, essayez de vous intéresser. Si ça se trouve, ça vous plaira et du coup, vous améliorerez peut-être un petit peu votre anglais avec. Et vous risquez effectivement de vous y intéresser. Ça vous apportera vraiment quelque chose. C'était pour moi une expérience vraiment mémorable.
J'ai une petite question. Moi, c'est pas un peu dans le même style que les conférences TEDx. C'est bien réalisé pareil ou enfin c'est le même. C'est vraiment plus sérieux et plus universitaire.
C'est pas forcément plus sérieux, c'est plus long. Oui, c'est ouais, c'est-à-dire c'est que les cours sont un peu plus longs. Mm-hmm. C'est un poil plus sérieux, c'est moins distraction, mais c'est le même genre de comment dire.
C'est presque des choses. Enfin, c'est. Oui.
C'est l'émerveillement du savoir, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire
oui.
que TED t'apporte le même genre de bah oui, c'est ça, d'émerveillement.
Oui, totalement.
Et tu découvres des choses auxquelles t'aurais jamais pensé. Et c'est un petit peu plus dans le distrayant. Là, c'est vraiment des cours oui. de Harvard. Mais bon, c'est pas totalement éloigné, on va dire.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme un cours qu'on pourrait avoir en fac en France, voilà. Très chiant quoi. C'est pas le. C'est,
non priori, non, ça, au contraire,
ça t'a captivé.
Ça se regarde comme une série télé quoi. C'est, alors il aborde des sujets comme the moral side of murder, donc c'est celui dont je parlais, la face morale du meurtre. Est-ce qu'on est libre de choisir? Est-ce que ce this land is my land qui est le cri de ralliement de enfin bref, c'est un truc très américain, etc. Il parle de affirmative action qui est la discrimination positive par exemple. Etc. Il y a plein de sujets de ce genre-là qui sont qui vous éclaireront même sur ces sujets-là et sur pourquoi, comment, qu'est-ce qui a été fait à tel moment, enfin, et même encore une fois comprendre l'argument de l'autre côté de l'argument, ce qui est toujours bon quoi.
Ça a l'air passionnant.
Voilà.
Pas mal, tout ça.
C'est donc Justice with Michael Sandel de Harvard, ou alors Sandel, c'est S-A-N-D-E-L, ou alors si on s'appelle Jérôme, S-A-N-D-A-L-E.
Ouais, c'est quoi ce remarque? C'est à moi, je parle.
Oui.
Alors, je préviens, il y a des moments, ça coupe, mais oui. c'est ma connexion.
Alors non, donc, c'est pas. J'allais dire pareil chez moi, donc Jérôme, mais, nous sommes unis dans les problèmes.
Oui, mais ça le faisait aussi dans le dernier upload, ça ne coupe pas à l'enregistrement, donc vous n'entendrez. Non, mais je pense que c'est la connexion. On va dire que c'est la connexion.
Non, si William ça le fait aussi. Bon, on investiguera
toi,
la
Patrick,
chose.
Hein.
Bref. Non, mais c'était juste pour avertir que parfois vous allez peut-être m'interrompre et je vais pas vous entendre.
D'accord.
Et inversement.
Voilà. Alors, je vais parler un petit peu de musique. Et alors, messieurs, petit quiz musical. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous n'avez pas le droit de sortir Shazam. Et vous allez me dire si vous reconnaissez, si ça vous dit quelque chose. Est-ce qu'on entend?
Oui.
Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui, ça me dit quelque chose.
Mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Hein.
Bah, moi, je dirais qu'en fait, non, c'est pas censé nous dire quelque chose. C'est juste que c'est un truc tellement universel que.
Eh bien non. En fait, c'est quelque chose d'assez moderne. On dirait un vieux titre très classique. Et en fait, non, c'est un morceau de Dustin O'Halloran. J'ai du mal, c'est un vrai nom irlandais avec lequel j'ai du mal, mais c'est Dustin O'Halloran, qui est un compositeur et un musicien qui est né en 1971, donc il a exactement mon âge. Donc, pour dire, c'est pas très vieux, hein, en fait, comme musique. Ce Dustin O'Halloran,
c'est pas compliqué quand même.
O'Halloran, oui, mais je suis dyslexique, donc pour moi c'est compliqué. Alors, c'est un ancien membre d'un groupe de dream pop qui s'appelait Devix. Donc, il a plutôt commencé avec guitare. Alors, c'est pas vraiment du rock. Hein, j'ai écouté ce qu'il faisait, mais bon, il était plutôt dans la pop. Et en même temps, il a mené sa carrière de compositeur. Il a une formation classique solo, et il a alterné ensuite des albums personnels et surtout des compositions de bandes originales de films. Et le morceau que vous avez entendu, il s'appelle Opus 23. Et en fait, vous l'avez peut-être entendu dans un film dont j'avais parlé dans le tout premier Positron, qui était Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Il a fait trois morceaux qui sont repris. Et alors, ce qui est très intéressant avec Dustin, je vais l'appeler Dustin, hein, comme ça, plus de problème.
Vas-y.
C'est qu'il s'inscrit dans une mouvance de musique classique qui s'appelle le post-classical. C'est-à-dire, c'est pas de la musique classique moderne avec ses trucs parfois un petit peu inaudibles et compliqués et intellectuels. C'est quelqu'un qui compose de la musique un petit peu comme on composait de la musique classique autrefois, avec beaucoup d'émotion. C'est une musique assez facile à écouter, ça fait vraiment musique de film. C'est très marrant parce que quand je fais écouter ce morceau à des gens, ils me disent ah c'est un truc, c'est pas du Chopin ça ou quelque chose que je connais, ça fait très classique. Et en fait non, c'est composé par un compositeur de 40 ans. Son style de musique est très très pictural. Bah du coup ça va très très bien avec le cinéma. Il a un style très cinématographique. Moi j'aime énormément écouter sa musique parce que c'est typiquement une musique classique que vous mettez dans les oreilles en marchant dans la rue et vous vous faites votre film, quoi. Il y a plein d'émotions qui se passent dans la musique et on est presque là à faire des cadrages et à dire ah tiens il se passe ça à tel moment dans le film. C'est vraiment une musique pleine d'histoire qui est très personnelle. Alors, c'est une musique quand même très mélancolique. C'est de la musique porteuse de souvenirs. C'est à ne pas écouter un dimanche soir quand il pleut et que vous avez le cafard, parce que ça va mal se terminer. C'est un peu ces plaisirs aigre-doux, des souvenirs d'enfance qui reviendront pas. Vous voyez ce que je veux dire? La Madeleine de Proust à l'orange amère, quoi. C'est le c'est un petit peu ce qu'il y avait un petit peu dans Amélie Poulain. Ce qui me permet de faire d'ailleurs une petite ellipse, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je compare à un autre compositeur que j'aime beaucoup, mais celui-ci est français, qui s'appelle Yann Tiersen. Alors deux mots quand même sur Yann Tiersen. Yann Tiersen, ce n'est pas Amélie Poulain. On a repris sa musique pour faire la bande son d'Amélie Poulain, mais il n'a rien composé pour Amélie Poulain. Tant mieux pour lui, il a gagné beaucoup d'argent avec la musique d'Amélie Poulain, mais Yann Tiersen, la musique qu'il y a dans Amélie Poulain, c'est La Valse des Monstres et Le Phare, qui sont ses deux premiers albums. Mais il n'a pas écrit de musique pour Amélie Poulain. Donc souvent, on dit Yann Tiersen, ouais, maintenant c'est trop connu, c'est chiant. Ça reste quelqu'un de très intègre, mais bon, tout ça pour dire, c'est de la musique vraiment sur la nostalgie, sur la mélancolie. C'est une musique, voilà, que je ne conseille pas d'écouter quand on est déprimé, parce que ça va renforcer votre cafard, mais qui est une musique quand même qui fait du bien, qui est très personnelle, qui est douce et qui est très agréable à écouter. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui n'y connaît rien en musique classique. Je m'y intéresse petit à petit. Alors, genre, je télécharge les triomphes du classique dans Spotify. Mais voilà, je sais pas trop ce qu'il faut écouter. Et je suis tombé sur Dustin en découvrant le film Marie-Antoinette. Et depuis, j'ai écouté tout ce qu'il a fait. Donc, l'album que je vous recommande pour commencer avec lui, c'est Piano Solo Volume 2. Dans lequel vous allez retrouver cet opus 23. Opus 23, en plus, moi, une résonance particulière pour moi, c'est que en écoutant ce morceau, alors je sais pas si vous aurez la même image, mais j'ai l'impression de voir toute une vie se dérouler, comme s'il y avait une naissance, une enfance, une adolescence, un âge adulte, la vieillesse et même la mort à la fin du morceau.
On va écouter un petit peu plus peut-être.
Si on peut le mettre en musique de fond, on m'entend toujours.
Ouais. Ah ouais, c'est pas mal là, en plus on t'entend parler, c'est super. France Culture.
Voilà, on dirait une émission de France Culture. Alors, toute une vie, les sentiments, la Madeleine de Proust à l'orange amère. je vous conseille, si ça vous plaît pas, d'écouter un deuxième album qu'il a fait en 2011 qui s'appelle Lumière, qui est un album beaucoup plus mixé avec des sons de synthé, un peu de techno, enfin de la techno ambiante quoi, qui est peut-être plus accessible pour les gens qui sont allergiques au classique. Mais en tout cas, Dustin O'Halloran est quelqu'un d'extrêmement créatif qu'il faut suivre de très près. Moi, j'ai raté son concert il y a 2 ans, il était venu jouer sur Paris. J'espère que je vais pas le rater la prochaine fois. De la musique classique, mais qui fait pas vieillotte, qui fait pas poussiéreuse, et qui fait pas musique classique contemporaine inaudible, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, ça c'est intéressant. Tout à
fait. Voilà. Super. Bah écoute, moi j'ai fait dans l'intellectuel, toi tu fais dans le sentimental. Je me demande ce que nous réserve Will. C'est un
du
un,
porno.
Mais ouais, tu y allais. Non, plus, non, mais non, attendez, en plus, je vais vous parler de quelque chose qui est magnifique aussi. Un film incroyable. Enfin, un film que j'ai vraiment, mais alors, ça fait partie de ces petits films comme ça qu'on regarde, on tombe dessus, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et au final, j'ai juste adoré. Alors, ce film s'appelle L'été de Kikujiro. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, certainement, je pense.
Peut-être,
je pense que tout le monde.
Non, enfin, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu déjà.
Bah voilà. Mais alors regarde-le. C'est obligatoire.
OK, merci Will. Donc aujourd'hui on vous a montré
Non mais à la limite ça pourrait se résumer à ça, c'est tout, parce que c'est tellement formidable. Non, Les Têtes qui Kikujiro, c'est un film qui est sorti en 99, qui a été réalisé par Takeshi Kitano. Ça, vous devez peut-être connaître ce nom, parce que je pense que ça fait un des rares.
Ah oui,
un
en France,
japonais.
On est quand même.
Oui, oui, c'est pour ça que je dis que je pense que vous devez connaître son nom, parce que ça fait partie de ces célébrités internationales japonaises qu'on connaît, que beaucoup de gens connaissent. En tout cas, tous les fans de cinéma doivent certainement connaître Takeshi Kitano. Donc, il a réalisé ce film qui raconte l'histoire d'un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit chez sa grand-mère au Japon, qui est un peu seul dans la vie. Il est un peu seul, quoi. Le pauvre, il est un peu malheureux, il a l'air un peu triste, et il va partir à la recherche de sa mère, qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Pendant les vacances d'été, il va essayer de la retrouver. Ça va partir directement sur un, quasiment dès le début du film, hein, sur un road trip. Encore une fois, la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, je crois que vous en avez parlé aussi d'un road trip, mais là, c'est d'un autre style, où il va traverser tout le pays à la recherche de sa mère, et il va être accompagné d'un personnage qu'il va rencontrer, qui s'avère être Takeshi Kitano lui-même, donc le réalisateur, qui va aussi jouer dans ce film. Et ça va, ils vont rencontrer plein de personnages assez insolites. Ils vont traverser vraiment tout le Japon qu'on ne connaît pas forcément, enfin l'intérieur des terres du Japon.
C'est un genre un road trip, quoi.
Oui, c'est vraiment un road trip. C'est exactement ça. C'est un road trip et le but c'est de retrouver la mère du petit garçon. Et c'est un film qui est vraiment qui est délicieux. C'est-à-dire c'est vraiment un film d'été, ça tombe bien, ça porte ce nom, hein, L'été de Kikujiro, qu'il faut regarder l'été parce que c'est une très très belle histoire. Elle s'articule autour de plusieurs scénettes, des scénettes parfois drôles, parfois émotives, parfois même tristes, ça peut arriver aussi. Et on se prend vraiment d'affection pour le petit garçon en fait qui est vraiment il a un peu une tête à claque, faut être honnête. Enfin, physiquement, je sais pas, il y a quelque chose, t'as envie de lui mettre des tartes, mais
attendrissant quand même.
Non mais c'est vrai qu'il est très mignon et c'est surtout le Takeshi Kitano, pardon, l'acteur qui joue un rôle mais vraiment génial. C'est-à-dire il a vraiment il se moque de lui-même, il est toujours là pour essayer de ramener un peu de joie quand même au gamin et il est très très attendrissant lui-même, c'est assez étonnant. Il y a plein de
tu sais que c'est marrant parce que Takeshi Kitano en fait au Japon ses films sont pas du tout connus. Lui c'est une sorte de comique en fait, mais comique limite tarte à la crème quoi. C'est un énorme succès, enfin c'est un mec hyper connu qui a énormément de succès pour ses trucs comiques mais pas vraiment pour ses films. Il est très très peu connu au Japon pour ça quoi.
Ah ouais.
Ben voilà, mais en tout cas, il a un bon talent de comique. Bon, c'est l'humour japonais. Alors c'est sûr que moi je trouve ça très drôle. Il y a des scènes qui m'ont fait beaucoup rire et je trouve qu'il y a des scènes de situations qui sont vraiment très rigolotes. Après,
tu peux donner un exemple du genre de truc japonais.
Non, je sais pas. Alors il y a par exemple une scène à un moment où en fait c'est la façon dont c'est filmé. C'est-à-dire par exemple il y a une scène où on a le petit garçon qui est dans une piscine, et il va nager. Je vais y arriver. Et Takeshi du coup est à côté et le garçon lui dit tu sais pas nager. Takeshi dit si je sais nager, j'arrive. Et là tu le vois d'un seul coup, il y a une coupure nette et tu le vois avec une espèce de grosse bouée autour, enfin une bouée d'enfant autour de la taille. Il se jette n'importe comment, vous savez, un peu comme on peut voir dans les émissions de télé japonaises un peu débiles où il se jette n'importe comment dans des piscines, dans des épreuves complètement connes, on va être honnête. Et il se jette dans la piscine vraiment bêtement et puis on le voit essayer de nager et de se débattre et d'un seul coup ça s'arrête à nouveau et on le voit la tête carrément à l'envers, les jambes en l'air et juste la bouée. Alors raconter comme ça, c'est pas drôle du tout.
Oui, effectivement, c'est un peu bon.
Mais c'est très
visuellement, je peux imaginer.
Il y a le harakiri.
Mais c'est un peu ça. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. T'as tout à fait raison. Non, et rapidement encore pour terminer, très beau film, très très chouette histoire, mais surtout une bande son. Alors les amis, une bande son, mais encore une fois, mais magnifique, qui est orchestrée par le formidable Joe Hisaishi, qui a fait notamment les musiques de plein de films des studios Ghibli, Le Château dans le Ciel, Voyage de Chihiro, Château ambulant, Ponyo sur la falaise, et j'en passe. Et rien que pour la musique, ça vaut le coup de voir ce film, parce que c'est une musique que j'adore et qui fait régulièrement d'ailleurs Joe Hisaishi quand il fait tous ses concerts live, ça fait partie de ses morceaux phares. Donc c'est vraiment une musique, une BO incroyable. Et je sais pas si je crois que je t'ai filé un lien, Patrick. Sur Skype.
Mais ah oui, grave. D'accord. Pardon.
Mais c'est pas grave.
Oui,
mais,
bien sûr.
Si tu peux faire écouter la musique après, ça pourrait être l'occasion aussi. Très très belle musique. Et sur la musique, je vais terminer pour dire que Takeshi Kitano, on connaît ici pour ses films ultra violents. Il n'est pas du tout ultra violent ce film. C'est un très 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 beau film. Très belle histoire à voir pendant l'été. Ça nous fait voyager, ça fait découvrir le pays, le Japon. C'est vraiment, je recommande ce film pour tout le monde. Donc voilà, très très belle histoire.
Tu me l'as bien vendu, tu m'as bien donné envie.
Ah mais oui, c'est vraiment...
Ça donne envie de... Attends, écoutons un petit peu la musique. Ouais. Je vais remonter un peu le son. C'est marrant, on reconnaît la patte...
Ah, Police and Cheese, là, on peut pas...
Ouais. Enfin, ça fait penser à du Miyazaki, effectivement.
Ah oui, c'est vraiment, okay. C'est exactement le même style. Alors, si on aime, là, c'est sûr qu'on est ravis. Si on n'aime pas du tout son style, on s'en est mal barré.
Ouais.
Au niveau de la musique. Mais voilà, donc,
d'accord.
Je recommande.
Super.
Cet été, ça tombe bien. C'est l'été. Profitez-en pour le voir. C'est un très, très beau film.
Super. Eh ben, écoutez, donc, on vous rappelle ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Il s'agit de Justice with Michael Sandel, Dustin O'Halloran, le piano solo volume 2. Et enfin, L'été de Kikujiro, le film de Takeshi Kitano. Eh bien, merci messieurs, je pense que ça fait un bon mix, un bon mélange, bien équilibré, de tout ce qu'il faut pour une tête bien pleine pendant cet été. Donc, vous
et
avez de quoi vous occuper.
Un cœur bien gros.
Un cœur bien gros, exactement. Oula, pardon. Donc, voilà, c'est tout pour cet épisode-là. Mais avant de se quitter, comme toujours, on donne... évidemment à nos camarades l'occasion de nous rappeler où ils sont sur Internet et où on peut les y retrouver.
Hey Jérôme, je te laisse.
Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv où je fais en vidéo des tests d'applications mobiles et de technologies, des smartphones, des appareils photo. On a aussi des articles écrits sur nowtech.tv. Voilà, c'est une petite fenêtre sur la technologie. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est Jérôme Kenborg, KeinBorg.
Magnifique, merci Jérôme. Will.
Et moi, vous pouvez me retrouver dans willenco.fr sur willenco.fr dans l'émission Willenco toutes les semaines. Normalement, il y a une émission qui arrive. Alors là, on doit être en vacances, on revient en septembre. Et il y a une émission toutes les semaines, une émission de divertissement, on s'amuse, on apprend plein de choses en vidéo et en audio. C'est sur YouTube, sur iTunes, un peu partout. Donc, on vous invite à nous rejoindre willenco.fr. Voilà.
Oui, là, on y est presque parce qu'on est déjà le 21 août. Comme le temps passe.
Ah, mais c'était ça. Quel été magnifique on a eu tout de même.
On a
vu,
oui,
ce temps.
Non,
je l'ai pas vu passer, quoi.
C'était
j'ai l'impression
incroyable.
D'être le 21 juillet, quoi. C'est
dingue. c'est étrange.
Bon, merci à vous tous. Pour ma part, vous le savez, c'est sur frenchspin.com pour les notes de l'émission, les commentaires que vous pouvez nous laisser, mais aussi les autres épisodes et les autres podcasts que vous pouvez y retrouver. Et enfin, vous pouvez également aller sur iTunes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, pour laisser des notes et des commentaires sur le podcast Positron. Ça nous aide évidemment à faire découvrir l'émission à d'autres personnes, puisqu'iTunes est toujours un catalogue de podcasts principal dans le monde des podcasts. Donc n'hésitez pas à y aller, laisser des 4 ou 5 étoiles, hein. Bon, moins si vous voulez, mais si vous êtes si vous pensez que Positron vaut le coup d'être découvert, votre Positron, ça peut être Positron sur iTunes. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode avec Will & Co pour cette session. Will & Co et par co, j'entends Jérôme, de cette session et ça sera dans 15 jours. Ciao à tous! We'll be right back.